Bienvenue pour une prédication d'été à Paris. Une prédication d'été à Paris est destinée en général à une petite assemblée, pendant que d'autres prédications d'été sur la Côte d'Azur ou dans les Cévennes concernent, grâce à la transhumance annuelle, beaucoup plus de monde. Une prédication d'été est en général conduite par un pasteur ou une pasteur qui a commis entre 50 et 60 prédications dans l'année et qui donc aspire à un peu plus de légèreté, de fantaisie. Mais vu la proposition du texte du jour, je vous dis d'avance que cela ne sera pas vraiment très léger. Ce pasteur d'été aspire en outre à diminuer le côté exégétique de sa préparation et aimerait un peu approcher plus franchement le vif du sujet, quitte à risquer de se brûler. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on est l'été entre nous et qu'une prédication d'été à Paris, délivrée partiellement de la tâche qui lui incombe aussi chaque semaine de fournir du carburant pour l'énergie d'une paroisse, puisque celle-ci s'est abondamment dissipée, eh bien cette prédication s'apparenterait plus à une méditation, voire à un happening prophétique, d'autant plus que ceux et celles qui proposent les textes du jour condensent pour l'été un type de texte qui serait mal commode de prêcher le long de l'année, puisqu'ils sont souvent très saillants. Cette introduction est faite, alors maintenant, allons-y. Ici, il y a un sujet qui est vif. Jésus dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Quelle est cette moisson dont Jésus parle? Pourquoi y a-t-il peu d'ouvriers? Peut-on y remédier ou cette pénurie est-elle fatale? Voilà donc les trois questions que je vais explorer ce matin. Quelle est cette moisson dont Jésus parle? Cette moisson désigne le salut du monde, tout simplement. Elle le désigne à la fois pour Jésus, au moment où il parlait, mais aussi pour les premières assemblées qui ont surgi après que Jésus avait fait et avait dit tout ce qu'il avait à faire et à dire. Le salut du monde, ça veut dire sa libération. Pour Jésus et pour les premiers croyants au Christ, cela avait un sens très concret. Dans leur conception, le monde était sous l'emprise de ce qu'on appelle le péché. Le péché aussi, c'était concret. Le péché désignait en fait un empêchement permanent au bonheur. D'où vient-il ce péché? Il y a des théories, mais qui sont peu satisfaisantes. Mais néanmoins, on peut dire que le péché désigne la condition humaine elle-même. L'humain, collectivement, du point de vue biblique, se trompe, rate sa cible. Et rater sa cible, c'est d'ailleurs le sens littéral du mot péché. D'où vient le péché? On ne le sait donc pas vraiment, mais la façon dont il procède, on la connaît. Il procède par l'engouement qu'ont les humains à préférer les chimères à la réalité. Ces chimères qui sont dans la Bible représentées par les idoles. Ainsi, le peuple hébreu s'était donné des lois dont le but essentiel était d'éviter la confusion entre l'illusion et le réel, et ce même si ces illusions semblaient être passionnantes et beaucoup plus excitantes que le réel. Mais ce rempart des commandements, par exemple ceux du Décalogue, s'est avéré insuffisant. Cette sorte de malédiction était toujours là, collectivement, même si individuellement l'application de ces lois anti-chimères pouvait parfois porter du fruit. Tu adoreras Dieu seul et pas n'importe quoi, pourtant c'était clair. Tu cesseras toute forme de productivité un jour par semaine, ce qui aurait pu t'immuniser contre la passion de ton illusoire toute-puissance, et par là même te fournir l'occasion de te protéger contre la perte de la perception du sens de ta propre présence dans le monde. C'était clair aussi. Tu aimeras l'immigré comme toi-même. C'était clair aussi, mais non. Le monde, pour Jésus et pour les premiers croyants après lui, était encore engoncé collectivement dans cette sorte de malédiction venue d'on ne sait où, et symbolisée poétiquement par la sortie d'Adam et Ève, comme quand on dit que quelqu'un fait une sortie au milieu d'une soirée qui pourtant se passait bien et se laisse entraîner par une passion incompréhensible qui n'aboutira à rien, sinon à ruiner l'ambiance générale. C'est un grand mystère que cette histoire du péché, alias la condition humaine. Mais pourtant, c'est un fait. Ce fils de Dieu, cet humain, malgré ses grandes qualités, ses apothéoses artistiques, philosophiques, poétiques, et malgré toute la beauté qu'il produit ou qu'il révèle, malgré sa capacité à bâtir non seulement des palais et des routes, mais aussi des systèmes d'organisation des plus complexes, collectivement, cet humain, selon la Bible, créé par la volonté de Dieu, est dans l'incapacité du bonheur. Et en général, toutes ces productions, y compris celles qui l'aident à survivre, collectivement et individuellement, finissent par se retourner mystérieusement contre lui et contre la partie majoritaire et la plus pauvre de lui-même, de cette humanité. L'humain le sent bien, tout ça, et organise collectivement et souvent individuellement une espèce de permanente fuite en avant, mais qui, vue de haut et sans le nuage, et au-dessus du nuage de l'intoxication du péché, n'est en réalité que du surplace. Il n'y a pas de fuite en avant. Il n'y a que du surplace. L'humain est celui qui ne sait rien de l'humanité, c'est assez paradoxal, car de cette humanité, il ne tient aucun compte, à tel point que, d'un certain point de vue, son histoire à cet humain, celle qu'il écrit lui-même, est essentiellement celle de ses guerres, de ses rivalités, de ses illusions qui toutes finissent par se dissiper. Et le fait qu'il n'en tire, au fil des générations, quasiment aucun enseignement révèle soit que la mémoire humaine est celle d'un poisson rouge, ou que c'est justement par ce phénomène d'oubli que se voit le nœud gordien de sa condition. L'humain est incapable de sortir de sa condition et reste embarqué dans sa spirale non évolutive et en permanence. Pour Jésus, la moisson, le salut, la libération passent par le réveil de la quintessence de la loi libératrice de Dieu et de ce qu'elle peut produire comme bienfait. Mais cette loi et ses commandements ont été du temps de Jésus subvertis par ce qui est devenu une religion soumise au pouvoir romain et à ses élites internes, voire corrompue. Elle a perdu toute vitalité et l'injustice règne. Jésus, profondément sensible à l'injustice, veut réveiller tout le monde et sortir tout ce monde de cette mystérieuse malédiction du péché. En hébreu toujours, le fait de manquer sa cible. Et ses apôtres, après lui, pareil. Pour eux, après Jésus, s'ajoute une urgence supplémentaire. Le changement doit s'effectuer avant le retour de leur Christ, qu'ils attendent imminemment. L'urgence est donc d'annoncer la bonne nouvelle de la libération, de l'affranchissement du plus de monde possible, avant que le monde se referme sur lui-même. Il faut ébranler les consciences. Et tous les pouvoirs qui se seraient bâtis, qui se sont bâtis sur des chimères, sur des erreurs, au lieu de vouloir atteindre la véritable cible qui est le bonheur de tous et à jamais. Voilà le programme. Et j'en viens à l'exploration de ma deuxième question pour aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il si peu d'ouvriers? Je pense que la réponse est facile. Justement à cause de ce programme gigantesque et universel, qui peut se lancer dans une telle aventure, littéralement celle de sauver le monde? Précisons une chose. Il est noté ici que Jésus emploie le mot d'ouvrier et non pas celui de serviteur ou d'esclave. Il le dit dans la partie de ce long texte qui n'a pas été lue. Tout ouvrier mérite un salaire, une paye. Jésus ne regrette pas, ne recrute pas des esclaves, mais il convoque, il appelle des ouvriers dont le salaire, déjà qui ont un salaire, et dont le salaire, dont la rétribution est dans l'acte volontaire d'entrer dans cette démarche universelle et gigantesque. Je veux dire par là que ce ne sont pas des soumis qui sont appelés, des soumises à une mission aveugle, mais des volontaires sûrs de leur capacité, confiants dans ce qu'ils vont faire, et je dirais même sûrs de leur technique pour participer à ce grand changement. Pourquoi y a-t-il si peu d'ouvriers? Mais aussi à cause de la préférence universelle, vous savez, pour la stabilité, même si celle-ci voue au malheur le plus grand nombre, et même si cette stabilité est aussi une illusion, dont par les temps qui courent, nous avons l'illustration, nous qui commençons à vivre dans un monde qui se révèle comme instable et qui révèle en fait qu'il ne l'a jamais été stable. Face à cette emprise du péché, par définition, les ouvriers sont peu nombreux car les appels de ce monde sont a priori plus intéressants que l'appel à s'engager pour cette cause dont tout esprit normalement constitué pourrait juger qu'elle n'est qu'une utopie, une utopie de plus. Peut-on remédier à cette pénurie d'ouvriers? Telle est ma troisième question à explorer. Oui, on peut y remédier. Si l'on commence à envisager que la proposition évangélique, celle de Jésus et celle de ses premières églises, n'est pas d'abord une proposition individuelle, c'est-à-dire adressée à des individus, pour que celui-ci ou celle-là réveille en lui ou en elle un peu plus de ferveur, un peu plus de cohérence, un peu plus d'implication et de foi. Mais quelle est cette mission, cette proposition évangélique? Et je vais employer le mot quand même, qu'elle est cosmique. Jésus parle sans cesse du règne de Dieu qui vient. Il ne dit pas en substance que chacun trouve en lui-même des capacités de développement personnel. La proposition biblique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, est gigantesque, universelle. Elle inclut toute la création. Elle est cosmique. Elle concerne la prophétie et le vœu ardent que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. On ne peut pas plus explicite dans une prière que des milliards de chrétiens répètent depuis 2000 ans. Le Notre Père, finalement, qu'on le veuille ou non, est une prière cosmique. Que doit faire un prédicateur d'été à Paris devant cette moisson, cette mission qui lui incombe d'expliciter, et ce, à cause d'un texte du jour particulièrement explicite? Dire à son assemblée de se réveiller, de s'engager davantage? Évidemment, puisque c'est vrai qu'une église entière, et la nôtre aussi, de Port-Royal Quartier Latin, ne repose que sur l'engagement pour le collectif d'une minuscule fraction de ses membres, même si beaucoup de gens sont engagés dans leur propre voie. Dire à cette assemblée d'été que choisir d'être un ouvrier de cette moisson, c'est d'être envoyé comme des agneaux au milieu des loups, alors, oui, d'accord, mais qui veut le poste? Qui a envie de risquer d'être dévoré? Bien personne. Et c'est parfaitement compréhensible. Jésus ne sait pas vendre le poste. Mais il apparaît à tous un peu mieux aujourd'hui, et cela réduit la dimension utopiste du discours de Jésus et de la proposition évangélique, que les affaires nous concernant commencent à prendre une allure cosmique, en tous les cas à l'échelle de notre planète, et de la capacité à cette planète qu'on lui laissera ou non de maintenir ou non une vie humaine, après que cette vie humaine aura réduit de façon drastique à peu près tout ce qui lui permettait de continuer. Et l'ayant fait uniquement à cause de son incapacité à voir collectivement l'évidence du mur dans lequel elle fonce à une vitesse qui augmente exponentiellement. Face à cette évidence, attestée aujourd'hui largement en dehors des prophéties bibliques et des cercles chrétiens, peut-être que maintenant, en fait, maintenant qu'ils ne peuvent pas faire autrement, en fait, peut-être que les croyants au Christ vont aussi se réveiller pour entrer dans le travail de la moisson et participer à ce mouvement évoqué prophétiquement par Jésus, le mouvement vers le salut du monde, du cosmos en grec. Parce qu'aussi l'urgence dans laquelle les premiers croyants au Christ vivaient quand ils attendaient le retour imminent de leur Christ, cette urgence, elle est là aujourd'hui, avec une autre forme, certes, d'autres discours autour, mais elle est toujours là et elle nous invite sans aucun doute à méditer à nouveau frais les commandements bibliques sous l'angle du collectif, collectif du peuple humain, collectif de la création entière embarquée dans une arche comme celle de Noé, dont on ne sait pas si un jour elle retrouvera la terre ferme. Qui veut le poste? Amen.